Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à toi, chère auditeurice. Après un long voyage semé d'embûches patriarcales, tu as bien atterri dans Yes, le podcast des warriors qui mettent le sexisme en PLS. Et ça, c'est de la kiffance féministe en intraveineuse. Moi, c'est Elsa et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. L'argent, la thune, la moulaga. Appelez-moi michto, matérialiste, vénale, fausse gauchiste. Je m'en fous tant qu'il y a assez d'argent sur mon compte en banque pour que je ne dépende jamais d'un homme.
Yes.
Parce que oui, l'argent est évidemment un sujet féministe. On parle de chambre à soi. Coucou Virginia Woolf. Comment avoir une chambre à soi si on dépend de son partenaire financièrement? Bref, aujourd'hui, on parle d'argent de façon décomplexée. Laissez les tabous à l'entrée de vos AirPods et laissez-nous vous convaincre qu'il n'y a rien de mal à vouloir être indépendante financièrement. Comme d'habitude, je suis avec les warriors en chef. Coucou Zina.
Coucou.
Coucou Marga.
Hello.
Grâce à tous les témoignages que vous nous avez envoyés, on va pouvoir aborder le partage des frais dans un couple, la gestion de vos finances, la négociation de salaire à la hausse, le travail du sexe et même l'investissement. Bouh, la honte. Mais avant de commencer, je me tourne vers mes féministes énervées préférées. Marga, Zina, quel est votre rapport à l'argent ?
Ouloulouloulou. Attention, on est en thérapie là en fait.
C'est ça.
Alors moi je suis madame, j'ai peur de manquer.
Ok.
Je suis vraiment l'écureuil, c'est grave.
On te pardonne. C'est un classique, c'est un classique.
C'est un classique. Non, en fait, je pense que c'est dû à ma situation de précaire, c'est-à-dire que jusqu'à il y a récemment, je gagnais quand même plutôt pas trop mal ma vie, enfin de mon point de vue. Mm-hmm. Et donc j'ai beaucoup tendance à épargner, c'est-à-dire à mettre de côté. Et bien m'en a pris parce que pendant mon congé mat, en fait, l'année de mon congé mat, je crois que j'ai divisé mes revenus par 2,5 à peu près.
Okay. Ah ouais.
J'ai vécu pendant 4 mois avec zéro revenu du tout parce que l'assurance maladie, il y avait un bug, ils n'arrivaient pas à calculer mon dossier.
Parce que
quand on n'a pas une situation CDI stable, fixe, en fait, ils comprennent rien et mettent 1000 ans à traiter les trucs. Donc, du coup, j'étais très contente d'avoir ce matelas douillet sur lequel m'appuyer pendant ces quelques mois. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, moi, je pense que j'ai une relation à l'argent de cet ordre-là très économe qui vient de mon éducation aussi, je pense. Enfin, mes parents m'ont très vite appris à épargner, à mettre de côté. Et j'ai aussi, je pense, cette capacité d'épargne par une situation un peu privilégiée parce que mes parents m'ont beaucoup aidée, notamment pendant mes études. M'ont financé mes études et me filent des coups de pouce même de temps en temps. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup pour pouvoir justement se faire cette épargne qui est vraiment, vraiment... Enfin, moi, ça m'a sauvé la vie, quoi.
Bah, tu m'étonnes, surtout que toi, t'es journaliste indépendante. Donc comme tu dis, t'as pas un CDI ou ce genre de choses.
Voilà.
Et c'est un peu le basique quand on est freelance et qu'on peut se le permettre de mettre de côté parce qu'on sait jamais si le mois prochain on a des rentrées d'argent, quoi.
Exactement. Ou voilà, où on sait jamais, en tout cas, en quel niveau de vie on peut, voilà, à un moment j'ai gagné mieux ma vie, je me disais, ah, je pourrais me faire plus plaisir. Et en fait, je me disais, non, attention, Marguerite. Petit écureuil. Et franchement, j'ai vraiment bien fait.
Ok, bon, bah, bravo à toi. Zina, toi, t'es dans quel bail avec l'argent?
Moi, je suis ce que j'appellerais une fausse raisonnable. C'est-à-dire que j'ai grandi avec des parents immigrés pour qui c'était hyper important d'épargner, la sécurité, la fonction publique, tout ça, tout ça. J'ai mis très longtemps à m'autoriser à être freelance, hein, parce que j'ai commencé à être freelance à 35 ans. Moi, j'ai vraiment grandi avec cet impératif qu'il fallait gagner de l'argent, qu'il fallait en gagner beaucoup, parce que c'était une forme de reconnaissance sociale et de réussite. Et puis, le jour où j'ai commencé à gagner un peu bien ma vie, bah, j'ai apprécié les bonnes choses, avec un peu plus de légèreté que ma famille, qui n'était pas dépensière du tout. J'ai conscience que c'est un privilège hein, d'apprécier les bonnes choses avec légèreté. Donc, bah, quand je gagne ma vie, je kiffe de ouf, et je dépense ce que j'ai, et je partage, et je profite. Et puis, bah, quand je gagne moins bien ma vie, bah, je fais semblant d'être riche, et ça marche assez bien.
Waouh! Faudrait que tu nous fasses un tutoriel faire semblant d'être
riche. Avec plaisir.
Et toi, Elsa?
Bah, moi, je pense que j'ai grandi.
C'est la business woman, Elsa, de la bande.
Ouais, bah, ça fait pas si longtemps que ça, parce que à la base, j'avais, je pense, une grosse gêne, une honte. Genre, l'argent, c'est sale. Mmh. Vraiment. Famille de gauchos, bonjour. Après, j'ai compris que, justement, encore une fois, en tant qu'indépendante, parce que moi, ça fait presque 10 ans, quoi, ou 7-8 ans, je pense que je suis freelance, il me fallait ben, un toit sur ma tête, qu'avec mon statut, j'arrivais même pas à louer un appart, c'est-à-dire que j'étais en sous-loc pendant 8 ans à Paris.
Paris, en plus.
Voilà, donc je vivais dans une plus ou moins chambre de bonne, on va dire, alors que, bon, c'est la ville où j'ai grandi, j'étais prof en école de commerce, et genre, j'avais des étudiants qui avaient des meilleurs apparts que moi. Et bon, enfin, ça va, tu vois, je me plains pas, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'étais là, non, mais là, c'est pas possible. Et du coup, je suis venue à Marseille, en partie parce que, justement, je voulais acheter un appart, que je voulais être propriétaire, c'était hyper important pour moi. Et ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que je viens d'une famille intello bourgeoise et que personne dans ma famille m'a jamais expliqué comment on fait pour acheter un appart, en fait. Genre, ça m'avait même pas traversé l'esprit.
Non, mais et ça, c'est... faudrait des cours à l'école, en fait.
Clairement, clairement. Et au final, c'est une amie qui a grandi en cité qui m'a littéralement coachée pendant des mois. Donc, merci à elle, parce que sans elle, je serais peut-être encore dans ma chambre de bonne. Et du coup, voilà. Donc, au final, ma position actuelle, c'est qu'en fait, il faut être pragmatique. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si t'en as pas, bah, en fait, tu vas passer ton temps à penser comment en trouver. Du coup, t'as pas de tranquillité d'esprit. Et je pense qu'on a tous, qu'on aspire tous et qu'on mérite tous la tranquillité d'esprit. Maintenant, j'ai beaucoup moins de tabous par rapport à ça. Et je sais aussi vivre avec peu. Parce que j'ai eu des périodes étudiantes, freelance, lancement d'activité, où, enfin, et même encore aujourd'hui, c'est pas du tout tous les mois la fête, quoi. Mais comme toi, Zina, j'aime le confort aussi, j'aime voyager, les bons restos, tout ça, donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier témoignage. Donc, Marga, tu vas nous présenter Ariette.
Oui, alors Ariette est membre des Dévalideuses. C'est un collectif féministe qui traite des questions liées au handicap. Et ces derniers mois, elles ont participé à une très, très grosse lutte dont vous avez peut-être entendu parler. C'est la déconjugalisation de l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Donc, ça peut paraître un petit peu technique, dit comme ça, merci à l'administration française. Mais en gros, voilà, la AAH, c'est une prestation sociale dont peuvent bénéficier les personnes handicapées si ils ou elles ne peuvent pas travailler ou s'ils ont de maigres revenus. Et cette prestation est versée par la CAF. Donc, on parle d'un truc autour de 900 euros. Donc,
c'est ça,
voilà, c'est quand même... Voilà, on est très loin déjà du SMIC. Donc, voilà, très compliqué quand même de vivre avec 900 euros par mois. Et comme toutes les prestations de la CAF, elles dépendent des revenus du foyer. C'est-à-dire qu'on calcule pas seulement les revenus de la personne, mais, par exemple, si on est en couple, on fait la moyenne, en fait, des revenus aussi de toi et puis de ton concubin, conjoint, mari. Donc, le problème pour... Une femme, par exemple, handicapée qui se mettrait en couple, qui touche la AAH, si elle se met en couple avec un homme, une femme qui gagne beaucoup mieux sa vie, le risque, c'est qu'elle perde, en fait, carrément son allocation adulte handicapée, ce qui est quand même problématique, parce que là, ciao l'indépendance financière dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on dépend complètement financièrement de la personne avec qui on vit, alors qu'on est dans une situation où trouver du travail est compliqué, voire impossible, en fonction des situations. Et ça pose tout un tas de problèmes, et notamment le fait, bah, par exemple, quand on est victime de violence au sein de son couple, bah, le fait de ne pas pouvoir s'enfuir, parce qu'en fait,
fuir,
en fait, ça demande de l'argent. Enfin, ça demande du courage, ça demande de l'énergie, ça demande de l'organisation, mais ça demande aussi de l'argent pour pouvoir se loger, se nourrir, trouver les ressources, se déplacer. Voilà, donc ça, c'est une lutte vraiment que les Dévalideuses ont menée ces dernières années avec d'autres associations. Et donc, pour la petite histoire, c'est une loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale et qui a été refusée parce que tous les députés de La République En Marche, donc le parti de notre très cher président Emmanuel Macron, en fait, ils ont voté contre, et c'est le seul groupe à l'Assemblée nationale à avoir voté contre. Voilà, donc voilà, c'est le genre de personne qui nous gouverne actuellement. Voilà, donc j'ai demandé à Ariette de revenir sur cette question donc de l'indépendance financière pour les femmes handicapées.
C'est un sujet peu abordé, pourtant l'indépendance financière pour les femmes est clairement un enjeu féministe. Il y a encore beaucoup de violences patriarcales de tout type qui sont supportées par nombreuses femmes pour des questions financières. Dans nos sociétés, l'indépendance financière, elle va souvent avec le travail. C'est un truc qui est d'ailleurs célébré par une branche du féminisme qui est complètement compatible avec le capitalisme. Mais pour les femmes handicapées, la question, elle se pose de manière différente. C'est encore un combat qui est souvent invisibilisé. Quand on pourrait travailler, on est souvent exclu du monde du travail à cause d'une double discrimination. On sait par exemple que les femmes handicapées sont deux fois moins employées que leurs homologues masculins. Peu importe le niveau de diplôme atteint, souvent avec beaucoup de difficultés et souvent plus élevé, d'un côté on a le sexisme et de l'autre l'infantilisation constante qui nous cantonne à des emplois précaires ou peu qualifiés. Parce que femmes et handicapées, la présomption d'incompétence est d'autant plus importante, non seulement dans le fait d'exercer un emploi, mais aussi simplement de prendre des décisions qui impliquent de l'argent. Et le système en place fait en sorte qu'il y ait plein de tiers qui puissent décider à notre place. Quand c'est possible, à moins de pouvoir compter sur un patrimoine familial, on est condamné à la pauvreté. Il semble alors normal que ce soit à nos proches de subvenir à nos besoins, parce que non, l'âge ne permet pas toujours de subvenir à ses besoins, comme si on était encore des enfants ou qu'on vivait au siècle dernier. Peu importe les violences auxquelles ça peut nous exposer, et violences dont on sait qu'elles sont relativement communes au sein de cette population. L'État et les personnes avec lesquelles nous vivons, pas toujours par choix, dictent des décisions de vie essentielles. Où habiter, avec qui, construire ou non un foyer, accéder ou non à la parentalité. Et évidemment, on réfléchit pas de la même manière quand nos choix intimes peuvent se traduire par des sanctions financières qui nous, peuvent nous mettre réellement en danger. Pour ça, la déconjugalisation de l'AAH est importante. Et quitte à me répéter, c'est bel et bien un enjeu féministe, qui concerne des millions de personnes. Mais c'est juste un premier pas, parce que la façon même dont fonctionne l'AAH nous impose aussi une forme de pauvreté.
Merci beaucoup, Ariette, pour voilà, cette petite mise au point.
Super important.
Ouais. Très, très important. Voilà, cette question de la dépendance financière, c'est vrai que déjà, en tant que femme, c'est très récent, hein, parce que les femmes n'ont le droit d'avoir un compte en banque que depuis 1965. Enfin, sans les femmes mariées, en tout cas, sans le consentement de leur mari. Donc, c'est tout, tout récent. Et c'est vrai que quand on est handicapé, c'est double peine, quoi. C'est-à-dire que cette mini-indépendance financière qu'on peut avoir par une aide, elle est fragilisée et du coup ça fragilise en fait tous les choix de vie en fait. Enfin, je pense que si on n'a pas d'argent, on peut pas mener sa vie comme on l'entend. Donc merci beaucoup Ariette de nous rappeler ça et je pense que il faut aussi, enfin c'était important pour nous aussi de le rappeler en introduction de cet épisode. On va parler d'argent mais on est aussi consciente que pour énormément de personnes, et notamment de femmes, personnes trans, non-binaires, l'urgence, c'est d'abord de sortir de la galère et sortir de la pauvreté dans un monde où soit on hérite et on est rentier et tout va bien, ou alors soit on peut travailler, et en fait, c'est pas accessible à tout le monde. Et même avec le filet de sécurité qu'on peut avoir en France, hein, comme la Sécu, le chômage, toutes les aides sociales, elles sont toutes liées au travail. Enfin, le chômage, tu l'as si tu travailles, l'assurance maladie, c'est pareil, il faut être salarié, avoir cotisé pour pouvoir prétendre à un arrêt de travail.
Oui, une certaine forme de travail en plus. Ouais,
voilà, exactement, un travail salarié. Donc, la redistribution des richesses, comme elle se fait, c'est un modèle déjà qui est attaqué de toutes parts, hein, on l'a vu, et qui en plus est déjà imparfait, parce que ce filet de sécurité, il a énormément de trous. Là, on vient de parler de l'AAH, mais on pourrait parler de plein de situations. Par exemple, les personnes migrantes sans papier qui n'ont pas accès à la protection sociale. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui, pour travailler, doivent faire garde à leurs enfants, mais pour faire garder leurs enfants, doivent gagner de l'argent, mais pour gagner... Enfin, voilà, le cercle vicieux. Les personnes trans, notamment les plus jeunes, qui n'ont pas accès au RSA, qui parfois sont en rupture familiale ou tout simplement ne trouvent pas de travail parce que, selon plusieurs études que j'ai pu consulter, je vous mettrai les références, la moitié des personnes trans, selon une étude américaine, ont été virées de leur emploi sans raison. Et selon une autre étude en Belgique, un quart des personnes trans ont déjà quitté un emploi parce qu'elles se sentaient pas bien, en fait. L'environnement n'était pas sain. Et on sait aussi, surtout, que grâce à l'INSEE, 80% des salariés à temps partiel sont des femmes. Donc voilà, on a déjà un combat à mener vers cet accès à l'argent, justement. Comme l'a dit Ariette, l'indépendance financière, c'est une question féministe, parce qu'elle rejoint aussi tous nos combats.
Hein, absolument.
Parce que, voilà, tous les combats que j'ai listés, ce sont aussi des combats féministes. Mais comment faire quand on n'a pas accès au travail ou à l'héritage? Bon, nous, à Yes, on est honnête, hein, on n'a pas de réponse à cette question, à part ne votez pas Macron, mais trop tard, too late, voilà.
Mais pas Marine Le Pen, non.
Ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout essayer de détabouiser cette question, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait de notre argent dans ce monde archi-libéral.
Et je crois que le RSA pour une femme seule avec enfant, c'est 900 euros, donc à peu près l'équivalent. Donc c'est ce que l'État estime que une personne isolée ou en tout cas voilà.
C'est fou parce qu'en dessous du SMIC en fait.
Oui voilà. Ouais. Je veux dire comme tu disais, une femme, une mère célibataire, comment elle fait pour faire garder son enfant? Enfin c'est absurde en fait, ça fonctionne pas.
Ouais, c'est ubuesque.
Alors du coup, Zina, tu vas nous présenter notre deuxième warrior, Sarah.
Yes. Alors, Sarah nous raconte son expérience de directrice de campus. En fait, elle a bénéficié d'une promotion, mais pas vraiment.
J'étais directrice d'un campus, un site pour mon employeur. Et un jour, on m'a proposé de tripler mon périmètre d'action et donc tripler aussi les personnes à manager, la quantité de travail. Et puis, j'avais pas mal de déplacements qui allaient être générés par ce nouveau périmètre. Quand j'ai demandé comment allait se passer mon évolution, donc salaire et titre, on m'a dit qu'il allait falloir attendre la fin de l'année, donc 8 mois plus tard, pour que ça puisse se refléter concrètement. Donc j'ai pas du tout voulu accepter cette situation, j'ai bataillé pendant 3 mois de discussions très tendues, mais j'ai réussi à obtenir le titre et l'augmentation qui allaient avec mon évolution. Pendant ces 3 mois, j'ai écouté beaucoup de podcasts d'ailleurs, notamment un podcast que vous devez connaître qui s'appelle « Ma juste valeur », qui m'a donné pas mal d'éléments très pragmatiques de réflexion.
Alors là, grand, grand, grand classique. Combien de femmes m'ont raconté fièrement qu'elles avaient eu un nouveau poste ou une revalorisation de leur tâche sans que ça se traduise sur la rémunération? Ça, c'est... encore une fois, on est face à des employeurs qui n'hésitent pas, bon, consciemment ou inconsciemment, mais à taper un peu sur ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteurice, en fait. Ouais. Hein. Et ça, c'est un syndrome qui concerne absolument toutes les populations minorisées, que ce soit les femmes, les personnes trans, les personnes non-binaires, mais aussi les personnes racisées. C'est qu'on vit dans une société qui est dirigée par des gens qui nous ressemblent pas. Et du coup, on a une faille narcissique, un besoin de reconnaissance qui est beaucoup plus fort. Et on a ce petit syndrome de la bonne élève, j'aime bien l'appeler comme ça, qui est hyper facile à activer.
Et on a du bien coup, intégré depuis l'enfance que nous, il faut qu'on fasse 2 ou 3 fois plus que
exactement.
Les hommes blancs. Quoi.
Ouais. Et du coup, bah forcément, quand on nous dit, voilà, on va tripler ton périmètre, ou on va te donner des responsabilités, ou on va te confier une équipe, toi, t'es en surkiff, t'es tellement contente ou content que t'es dans une espèce de redevabilité qui, en fait, est assez délétère. Parce que je voudrais rappeler que le monde du travail, enfin le rapport du travail, on vit dans une société capitaliste. Si vous êtes là, c'est que vous apportez quelque chose. Donc, n'oubliez pas ce que vous valez. N'oubliez pas de revaloriser ce que vous valez. Et Sarah a été suffisamment badass pour se défendre et demander sa valo, mais il n'empêche que elle m'a raconté que par la suite, elle avait eu des rapports assez compliqués avec sa hiérarchie et qu'elle avait fini par partir. Voilà. Donc, en fait, il y a ce truc de rapport de force qui reste quand même assez constant. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas à vous battre parce que vous apportez à cette société. On est au moins la moitié de la population, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et puis surtout, n'hésitez pas à demander en fait. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années aussi. Ouais. C'est que moi, je demandais pas parce qu'on venait pas me chercher en me disant alors qu'est-ce que tu veux. En fait, il faut juste des fois juste oser dire. Bah en fait, moi, je pense que je pourrais avoir une revalorisation de mon salaire. Est-ce qu'on pourrait se poser, en discuter? Et je pense qu'on a peut-être en tant que femme plus de mal à le faire que les hommes peut-être.
Il y a ce truc de pas oser, c'est vrai.
Ouais.
Oui, alors que le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils te disent non.
Exactement.
Enfin, il y a peu de chances que tu te fasses virer parce que tu as osé demander une augmentation de salaire.
Je pense qu'aucun patron qui est conscient du travail que tu fais ne va dire « Comment ça, elle demande une augmentation de salaire ?» Mais n'importe quoi, en fait. Je pense qu'il va juste être déçu. Enfin, déçu. Peut-être dire « Bah non, je peux pas, machin », avec plein d'arguments, mais jamais... jamais
parfois, voilà. Agréablement surpris. Il y a un peu de qui tend rien à rien, genre « Ah, elle a osé demander. Ah, ok. » Bon.
Exactement.
Bien sûr. Et ça montre aussi que vous connaissez votre valeur, encore une fois. Donc c'est très très important. Merci Zina. Alors maintenant, on va passer à Clémence. Clémence, en fait, c'est à la base, elle était un peu acheteuse compulsive. Je ne sais pas si vous, c'est votre cas ou si vous connaissez des gens qui le sont. Et en gros, elle avait tendance à faire ce truc où elle achetait des trucs en ligne. Alors le e-commerce, c'est vraiment le satanisme pour ça, laisse tomber. Et en gros, elle ne regardait pas ses comptes après, donc comme si ça, c'était magique et que ça n'existait pas, le grand classique, quoi. Et heureusement, à l'époque, elle gagnait plutôt bien sa vie. Mais bon, c'était quand même symptomatique d'un blocage avec la gestion de l'argent. Et ensuite, elle est devenue célibataire. Elle a décidé de faire un break pendant 1 an à peu près. Et pendant ce break, elle a compris quelque chose.
Une des choses que je me suis pris en pleine face, c'est en fait ma dépendance financière à eux. Non pas que j'avais besoin de leur argent, mais j'avais besoin qu'il gère la partie financière de nos vies. Et ça a été une sacrée claque dans ma tête. Mais à partir du moment où je l'ai réalisé et où j'ai décidé de prendre un peu le taureau par les cornes et de m'en occuper, eh ben, mon désir de rencontrer quelqu'un a été divisé par 4. C'était assez impressionnant. Et donc du coup, bah, toute l'année, j'ai travaillé là-dessus. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments où bah, on retourne dans ses mauvaises habitudes. Voilà, j'ai déménagé l'été dernier et bah, j'ai refait n'importe quoi au moment du déménagement. C'est assez typique. Mais voilà, j'ai décidé que maintenant, j'étais une personne qui gérait ma thune, qui gérait mes dépenses et qui était un peu maître de mon budget. Et du coup, parmi les choses qui m'ont beaucoup aidée, il y a le podcast « Rends l'argent » de Titu Lodcock qui a été vraiment l'élément déclencheur. Et puis, il y a le compte Instagram « Mon budget bento » qui est tenu par Maëva, qui est vraiment incroyable pour apprendre à remettre un peu ses finances à plat. Et puis le livre qu'elle a sorti à la fin de l'année dernière, je crois que ça s'appelle « Mettre mon budget sur pilote automatique que, », que je vous recommande chaudement. Et en fait, à travers tout ça, ce qui a été super intéressant, c'est toutes les discussions que j'ai eues avec mon entourage, et notamment avec les femmes de mon entourage. Je me suis rendu compte que les gars regardaient leur compte presque tous les jours, alors que les femmes, en fait, bah, presque jamais. Que les gars, entre eux, bah, ils ont très souvent des discussions autour de l'argent, alors que moi, avec des amis que je connais depuis plus de 15 ans, on n'en avait jamais parlé. Au fur et à mesure de tout ça, et ben, moi j'ai évolué, mais aussi les femmes de ma vie, elles ont évolué. Ma mère, qui ne s'occupait jamais des comptes, a décidé à l'approche de la retraite de s'en occuper et de reprendre les rênes, puisque mon père, voilà, ça fait 30 ans qu'il s'en occupe et qu'il en avait marre. Et donc maintenant, elle sait en fait ce qu'ils dépensent et ce qu'ils font et pourquoi et comment est-ce qu'ils vont préparer l'avenir. Et puis j'ai une de mes meilleures amies de l'enfance, qui est exactement dans ma situation avant, et qui m'a appelée il y a quelques semaines pour me dire « Clémence, j'ai fait mes comptes ». Voilà. Et pour moi, ça, c'est une victoire. Voilà. Et ben, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et j'ai hâte d'écouter cet épisode.
Merci Clémence.
Merci Clémence pour ce témoignage. Bah, moi, je trouve ça très intéressant, cette prise de conscience du fait qu'elle laissait tout ce qui était financier en fait à son mec, à ses mecs en l'occurrence, dans les différents couples qu'elle a pu avoir. Et c'est vraiment un domaine dans lequel on est conditionné à ne pas se sentir légitime en fait, tout comme le bricolage ou ce genre de choses. Ce qui est quand même absurde, surtout que si on réfléchit, le schéma traditionnel, c'est quand même souvent les femmes qui gèrent le budget de la maison. Je sais pas, dans les années 50 ou encore aujourd'hui pour beaucoup de gens, le mec va travailler, donne une bonne partie de son salaire à la femme et elle va tout gérer, tout ce qui se passe dans la maison, les enfants, etc., etc. Donc je trouve que c'est assez ironique, entre guillemets, que on se soit, enfin pas tout évidemment, mais désintéressé de ça. Du coup, je voulais vous demander, Zina et Marga, est-ce que ça vous parle? Comment vous gérez vos finances au quotidien? Et est-ce que vous avez remarqué, comme ce dont elle parle dans le témoignage, des différences avec les hommes de votre entourage dans leur façon de gérer et aussi dans les discussions, quoi?
Ouais. Déjà juste pour réagir sur le témoignage de Clémence sur l'aspect compulsif, je trouve ça intéressant parce que moi à l'époque où j'ai souffert de boulimie, j'ai un peu ressenti ce truc aussi du vase communicant avec la dépendance affective à laquelle on est conditionné, quoi. Ce truc de compulsion qui peut aussi se traduire par les dépenses. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et moi sur mon rapport à l'argent, tout à l'heure je disais que j'étais une fausse raisonnable, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai un rapport sympa à l'argent, mais je mets sympa entre guillemets parce qu'en fait ça manque de prévoyance. Mmh. C'est vraiment un truc, j'ai une appli avec une petite météo, enfin sans déconner, j'ai un petit soleil qui s'affiche, oui, pour me dire que je suis pas à découvert et une petite pluie pour me dire qu'il faut que je regarde.
Elle s'appelle comment ton appli? Parce que
c'est l'appli HelloBank.
HelloBank, ouais. Ok.
Et du coup, c'est trop marrant parce que voilà, vous voyez, j'ai rendu mon rapport hyper ludique à l'argent, mais en fait, j'envie mes copines qui sont capables de se mettre devant des tableaux Excel et de tout regarder, parce que moi, je suis pas du tout comme ça. Quand j'en ai, je kiffe. Quand j'en ai pas, ben, je mange à la maison, mais je suis une cuisinière de ouf. Donc je kiffe aussi.
Ça c'est vrai. Elle cuisine ça trop bien, Zina.
Hyper important. Mmh. Et blague à part, en fait, il y a ce truc que j'observe autour de moi parmi mes copines. Effectivement, je l'ai constaté, une forme de pudeur. Enfin, l'autre jour, j'ai déjeuné avec une copine qui m'annonçait fièrement que son CDD était renouvelé. Et du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu vas le revaloriser financièrement? Et elle a eu l'air tellement surprise, tellement interloquée. Je me suis dit, mais ah ouais, on a vraiment un truc avec ça, quoi.
Ouais. Alors moi, c'est vrai que dans la discussion avec l'argent avec des amis, j'en ai pas vraiment en fait, à part pour dire qu'on n'en a pas. Enfin, les moments de... En fait, non, mais il y a vraiment une espèce, oui, peut-être pas de honte, mais en tout cas de pudeur vis-à-vis de l'argent, de dire non, mais moi, ça, enfin, j'ai de l'argent, donc pas de soucis. Enfin, c'est pas quelque chose dont on parle vraiment, quoi. C'est vraiment parler de disette, mais pas des moments où ça va. Et après, moi, c'est vrai que je me reconnais pas trop dans cette histoire, dans ce rapport à l'argent genré, dans mon couple. C'est plutôt moi qui amène des questions d'argent. On va dire, c'est moi qui ai une relation plus quotidienne, peut-être, avec mes comptes, tout ça. Enfin, en tout cas, des dépenses du couple. Après, je m'en fous de ce que fait mon mec, de son argent à lui, en dehors de ce que moi je fais. Il en fait bien ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est moi qui ai amené, quand j'étais enceinte et qu'on savait qu'on attendait un enfant, c'est moi qui ai amené cette question de, bon, ben, comment on fait pour gérer l'argent au quotidien? Parce que jusqu'à présent, on fait un peu chacun, c'est freestyle. Un peu la fête, freestyle. Ouais, ouais. C'est pour ça, Titi ou Lecoq, son podcast Rend l'argent, c'était pile poil c'est le bon moment pour moi de l'écouter, parce que c'est vrai que ça, moi, ça m'a fait tilt. Et donc voilà, mais après, j'ai une gestion prudente, quoi. Ça va que mon profil d'écureuil. Toi, t'as le soleil, moi, c'est l'écureuil. Où je vais quand même voir mes comptes quand même plusieurs fois dans la semaine et où c'est, voilà, c'est un peu.
Plusieurs fois dans la semaine, c'est pas mal, hein.
Ouais, ouais,
moi, je regarde pas aussi souvent. Hein.
Pour voir où j'en suis, en fait, juste savoir, comment ça va. Ouais, comment ça va, ma carte bleue?
Je vais m'y mettre.
Est-ce que tu peux me supporter jusqu'à la fin du mois?
Mais c'est vrai que les applis, c'est très utile. Enfin, moi, j'en utilise plusieurs. Enfin, celle de ma banque et aussi Banking, je crois. Après, il y a aussi Lydia, PayPal. Mais moi, j'ai franchement, déjà, entre mes comptes sur ma banque plus toutes les applis, là, j'ai de l'argent partout, en fait. Genre, dans tous les recoins. C'est comme si je mettais virtuellement de l'argent sous le canapé. Tu vois ce que je veux dire? Je vais mettre 150 euros par-ci sur une appli qui permet de payer avec ton téléphone ou je sais pas quoi, etc. Enfin, et du coup, je sais que, bon, voilà, je suis jamais complètement dans la merde parce que j'ai prévu le coup. Et dès que je peux... je mets de l'argent de côté, j'ai des virements automatiques.
Ça me rappelle un peu nos grands-parents qui mettaient des liasses cachées dans des canapés, en fait, dans des matelas.
Je pense que tout le monde a toujours fait ça quand il le peut, tu vois, parce qu'en fait, tu sais jamais ce qui va se passer. Tu sais jamais, en fait. Tu peux avoir un accident qui fait que tu peux pas bosser pendant des mois. Comment je vais faire, moi? Tu vois, j'ai rien. Ah non, en fait, j'aurais pas de chômage, j'aurais pas de...
Ah bah surtout en tant que freelance.
Voilà. Ouais. Donc, je suis assez contente ces 3-4 dernières années d'avoir réussi à mettre de l'argent de côté comme ça, parce que franchement, ça me rassure beaucoup, en fait. Et ça fait que je peux me permettre de pas trop stresser.
Oui, après, faut le dire aussi, c'est un travail de long terme aussi, de se constituer son épargne. C'est quelque chose qu'il faut planifier, en fait. Enfin, moi, je dirais.
Carrément.
Ça arrive pas comme ça, tiens, hop là.
Ah non, c'est
10 000 balles qui apparaissent.
C'est clair.
D'un coup.
C'est clair.
Voilà, je pense que oui, ça va avec le rapport qu'on a à l'argent, même.
Prochain témoignage, c'est Manon. C'est Zina qui va nous la présenter.
Yes, je vous propose d'écouter Manon qui nous parle de la culpabilité qu'on ressent quand son ou sa conjointe ou conjoint gagne plus.
Coucou les warriors, moi c'est Manon, j'ai 30 ans, j'habite à Paris. Je suis architecte d'intérieur en freelance depuis 3 ans. Pourquoi en freelance? Parce que j'ai toujours voulu avoir mon indépendance financière et mon indépendance tout court. C'est une situation qui est assez particulière parce que voilà, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a un jour, en fait, c'était un petit peu plus compliqué financièrement et donc je vis en couple et du coup, je me sentais toujours un peu redevable parce que je gagnais moins d'argent et que du coup, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que j'en fasse plus sur les tâches du quotidien, tout ça, que je montre à mon compagnon que j'étais toujours active et que je me laissais pas aller et que et voilà. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que ça servait à rien d'aller dans ce sens-là et qu'il fallait plutôt que j'utilise toute cette énergie pour que mon entreprise marche. Donc j'ai mis les bouchées doubles plutôt sur la construction de mon entreprise et pour comment faire en sorte qu'elle marche encore plus et que ça fonctionne mieux pour moi, en fait. J'ai d'abord pensé à moi avant mon couple et avant tout ça, et surtout sortir de ce côté culpabilité toujours de gagner moins d'argent. Et du coup, ça a fini par payer. J'ai encore plus de projets. Je suis encore plus fière de moi. Et il y a même des mois où je gagne plus que lui. Donc ça, on s'en fout, c'est pas une compétition. Mais du coup, ça a renforcé mes convictions que, en fait, il y a beaucoup de barrières qu'on se met nous-mêmes. Et enfin, c'est les premières qu'il faut faire péter parce que on a déjà suffisamment de barrières qui sont mises par les autres pour qu'en plus s'en rajouter nous-mêmes. Voilà, merci les Warriors et encore mille fois merci pour ce podcast qui fait un bien fou quand je me balade dans la rue avec vous dans les oreilles. J'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver.
Merci Manon. Bah, gros sujet ça, les croyances limitantes en fait. Hein. C'est vrai que beaucoup de femmes sont conditionnées elles-mêmes à penser leur rapport au succès et à l'argent de façon craintive. Elles sont, je parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteurice. C'est vrai que c'est ce truc d'avoir l'impression de jamais assez mériter, qu'il faut vraiment faire le max. On est dans une société de la performance, faut toujours montrer qu'on fait beaucoup. Hein. C'est un peu ce qu'elle décrit. Et j'ai trouvé une étude exclusive sur LinkedIn qui date du 14 mai 2019. Qui s'appelle Gender Insight Reports, je mettrai la référence, où les chiffres sont assez édifiants en fait. On constate que les femmes consultent moins les offres, mais surtout qu'elles postulent moins. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé les filles, mais on attend de correspondre à 100% à l'offre, alors qu'un mec, s'il correspond à 30 ou 40%, il bluffe et il tente, quoi, en fait. C'est hallucinant. Et pour citer la personne qui a mené l'enquête, elle explicite, elle dit « Dès lors qu'elles ne peuvent pas répondre à l'ensemble des exigences requises pour un poste, elles hésitent à tenter leur chance, alors que les hommes se montrent moins scrupuleux et plus audacieux. » Ça ressort dans les chiffres et en fait, ça montre que l'audace, le risque, le bluff, le fait d'investir en soi, hein, puisque tout à l'heure Manon parlait d'investir dans son entreprise, c'est beaucoup plus valorisé dans la construction sociale du genre masculin. Et en ça, merci Manon, t'as raison, c'est important pour nous tous de se déconstruire là-dessus et d'oser miser sur nous.
Ouais. Et moi, ce qui m'a intéressé dans son témoignage aussi, son compagnon gagne plus et du coup, elle se sent obligée, limite, de s'investir dans la maison. Donc,
de compenser quelque part.
Donc, c'est bien que le travail qu'on fait à la maison, ça a une valeur, en fait, le travail ménager. C'est un débat qui a eu beaucoup hein, dans le féminisme sur faut-il rémunérer les tâches ménagères.
Merci les féministes matérialistes.
Parce que oui, c'est du temps qu'on passe pas à autre chose. Et en fait, si on le fait pas, il faut payer quelqu'un pour le faire. Donc, je trouve ça intéressant ce switch un peu de « Ah, je rapporte pas d'argent, donc je rapporte en fait une activité ménagère. » Donc, ça a de la valeur, en fait. C'est pas, elle se dévalorise peut-être un peu en le disant, mais ça a de la valeur ce que tu as fait pour ton groupe. C'est pas du temps perdu non plus. C'est quelque chose d'important pour un foyer. Et c'est aussi important de savoir que ça a de la valeur aussi.
Tout à fait. Alors maintenant, on va passer à une partie un peu différente, une interview. En fait, j'ai posé des questions à Léa Lejeune, qui est journaliste et entrepreneur. Et en fait, elle a fondé un média qui s'appelle Plan Cash, qui est la première newsletter qui parle argent, petites économies, dépenses émotionnelles et investissements aux femmes avec un ton féministe et concernant. Donc la première question que je lui ai posée, c'était tout simplement de présenter en fait Plan Cash.
Alors Plan Cash, c'est le nouveau média féministe qui parle d'argent aux femmes, aux jeunes, aux personnes éloignées de la presse économique en général. On essaie d'avoir un ton concernant, dynamique, d'être très proche du lectorat. Alors, quelle forme ça prend ? C'est avant tout une newsletter dans laquelle on peut lire en gros toute l'actu économique qui concerne les femmes et puis un guide d'investissement hyper pratique pour débuter, que ce soit dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie, etc. Ça sort toutes les deux semaines. C'est aussi un compte Instagram qui a aujourd'hui 8000 et quelques abonnés et qui propose des nouveaux contenus tous les jours. Et c'est aussi une plateforme, plancash.fr, sur laquelle vous pouvez suivre des formations à l'investissement. Et la semaine prochaine, on fera une formation « Comment gérer son argent en couple ?»« Comment prévoir son budget ?»« Gérer ses investissements dans l'immobilier, etc. »« Faire valoir la charge mentale et les tâches domestiques que les femmes font comme le travail gratuit. » Bref, un peu tous ces sujets.
Eh ben, il y a du boulot, là.
C'est ça. Allez, c'est où qu'on s'inscrit, là, pour
c'est clair. C'est trop utile.
C'est marrant parce que quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, vraiment, quand tu lis la presse économique, c'est incompréhensible. Si t'as pas vraiment des notions assez poussées, tu peux rien comprendre, en fait. Et du coup, de fait, ça éloigne les personnes. Et alors là, pour le coup, c'est pas forcément que des femmes, mais en tout cas, les personnes qui n'ont pas toutes ces notions-là, quoi. Et puis, évidemment, c'est marketé d'une façon très, très masculiniste. Mmh. Voilà, enfin, je pense que vous avez toutes des images en tête du genre de magazine qu'on ne citera pas. Mais, et ensuite, je lui ai demandé, du coup, quel était le constat qui l'a amené à vouloir aider les femmes à monter en compétences dans le domaine financier.
J'ai voulu créer Plan Cash parce que moi, j'ai été journaliste économique pendant 11 ans, notamment à Libération et à Challenge. Et en fait, la presse économique ne s'adresse pas aux femmes. Bon, déjà, il n'y a que des vieux monsieur blancs de plus de 50 ans, en costard-cravate, qui bossent dans des groupes de CAC 40, qui sont représentés un peu la figure du start-upper maintenant, mais c'est toujours un peu les mêmes, quasiment que des mecs. Il y a un niveau d'accessibilité qui est déjà un peu élevé, c'est-à-dire si tu n'as pas un minimum de connaissances en économie et en finance, ben, en fait, tu ne comprends pas ce type de magazine-là. Et moi, ce que je voulais, c'était refaire de l'information financière qui parle à vraiment tout le monde. Donc, voilà, être hyper abordable. Et puis aussi, parler de tous ces sujets qui concernent les femmes, c'est-à-dire comment on investit pour ses enfants, comment on investit pour ses projets. L'idée que l'investissement, ça peut être aussi se préparer à l'entrepreneuriat et pas forcément vouloir spéculer à tout prix et vers une espèce de course financière en reprenant tous les codes de la virilité.
Ce qui est intéressant dans ce qu'elle a dit là, c'est la partie, c'est pas forcément pour spéculer, parce que justement, quand je discutais avec elle, elle me disait « Mais c'est marrant, vous allez parler de ça, mais vous êtes de gauche, alors comment vous parlez d'argent quand vous êtes de gauche ?» Et je lui dis « Bah oui, c'est un vrai sujet. » Et du coup, je lui ai demandé « Comment tu concilies des valeurs de gauche avec le fait d'investir, spéculer, etc. »
Comment ça, on est de gauche ? Attends, j'ai oublié.
Je me suis trompée d'endroit, je crois.
Alors, c'est compliqué de concilier un média économique avec des valeurs de gauche. Mais alors, ce que je fais, c'est que j'essaye de me poser à chaque fois la question de la redistribution des richesses. Dans la newsletter, j'essaye de mettre des exemples qui peuvent concerner les personnes en situation de précarité. Et puis, toujours la question écologique. C'est-à-dire, je ne vais pas me dire « je ne traite pas des crypto-monnaies parce que la plupart des crypto-monnaies polluent un max ». Non. Ce que je vais dire, c'est qu'en fonction de chaque crypto-monnaie, combien elle pollue ? Et toujours poser cette question-là. Même chose sur les investissements. Là, le numéro sur l'assurance-vie. Moi, je pars sur le principe qu'aujourd'hui, on essaie d'investir un maximum en ISR. Hein, c'est l'investissement socialement responsable. On sait que ce n'est pas parfait, mais on essaye de prendre ça en compte. Et puis, si possible, d'aller vers des investissements encore plus responsables, peut-être pas encore assez connus, mais en tout cas, demandé par ma communauté.
Alors, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça fait bizarre hein, d'entendre ça.
Bah ouais, moi c'est vrai que c'est une question que je me suis, moi j'ai toujours un frein, enfin à me dire non mais investir en actions et tout machin, alors que c'est sûr que, enfin ça paraît plus intéressant de le faire parce que forcément les rendements sont beaucoup plus importants. On sait aujourd'hui donc le livret A qui est quand même le livret que la plupart d'entre nous détient, c'est rémunéré à 1%, là, je crois, ouais. Donc c'est rien, c'est moins que l'inflation, ça sert à rien. Enfin en gros ça veut dire que concrètement tu perds de l'argent à la fin de l'année en fait. Enfin tu peux acheter moins que ce que tu avais au début d'année, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours posé cette question morale un peu de « Ouais, ok, investir, mais c'est hyper capitaliste, en fait, et je finance quoi ?» Et c'est vrai qu'en préparant l'épisode, j'ai commencé un peu à me renseigner là-dessus aussi, sur est-ce qu'il y a des endroits où, éventuellement, je pourrais mettre mon argent qui soit un peu mieux rémunéré pour me retrouver peut-être dans 18 ans à avoir un petit pécule pour pouvoir financer les études de ma fille, par exemple, admettons. Et il y a des choses qui existent, quoi. Et je pense que c'est aussi important de se poser ces questions, même quand on est de gauche, parce que, en fait, tout cet argent qui dort dans sur nos comptes en banque, c'est de l'argent qui dort et qui sert pas à financer des projets.
Si, il sert aux banques.
Il sert aux banques, exactement. Qui spéculent. Mais je veux dire, il sert pas à financer des projets qui pourraient être intéressants. Donc, c'est vrai que j'ai le sentiment quand même que ces histoires de labels responsables et tout, c'est pas encore tout à fait au point. Que
il y
c'est
a
pas,
beaucoup de bullshit,
va,
c'est sûr.
Voilà, ça va pas forcément aussi loin que ça voudrait. Mais effectivement, ça peut être intéressant de trouver des endroits où on peut mettre notre argent pour que ça serve à financer l'économie dont on a envie, en fait, c'est-à-dire des projets qui nous tiennent à cœur, financer l'agriculture, financer les énergies renouvelables, et pas forcément que ce soit Total, parce que moi j'ai regardé sur une plateforme pour financer l'énergie renouvelable, c'était que des projets de Engie, Total et tout. Ça donne pas trop envie.
Merci,
quoi. Alors qu'il existe aussi des plateformes pour financer des petits projets sous forme de prêts, par exemple, dans l'agriculture, dans des choses comme ça. Et là,
c'est
ça peut être intéressant.
C'est presque du crowdfunding, mais sur lequel t'as un retour derrière.
Sur lequel t'as un retour sur investissement. Donc c'est vrai que ça demande du temps, quoi. J'ai sentiment là, je suis au début de mon petit tour, mais c'est de
la charge mentale.
Voilà.
Enfin, ça, c'est un truc.
Et choisir aussi la banque dans laquelle tu vas, quoi. Tu sais que si tu vas, par exemple, au Crédit Coopératif ou à la Nef,
exactement,
qui sont des banques plus responsables, tu auras moins de problèmes que si tu vas à la Société Générale, par exemple. Je cite des banques,
justement,
mais voilà.
Planca, je fais une newsletter sur le sujet avec un comparatif des différentes banques que je vous conseille. Moi, j'en suis, comme vous, au balbutiement de mes réflexions parce que, oh mon Dieu, nous vivons dans une société capitaliste. Oh mon Dieu, notre argent sert à des spéculations. Ça me dégoûte un peu. Moi, j'ai pas très envie les cryptos, les histoires de... même l'assurance-vie. Enfin, c'est un truc, j'ai du mal à me pencher sur le sujet, alors qu'en fait, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai une forme de dégoût qui est lié à mes convictions idéologiques, où je passe ma vie à rêver une société alternative, mais dans laquelle on vit toujours pas aujourd'hui. Donc, c'est le fameux paradoxe, quoi.
C'est ça. Et puis, en fait, je pense que on n'arrive pas à visualiser ça de la même façon qu'on visualise notre consommation, par exemple, de vêtements, de nourriture. Tu vois, par exemple, nous, on va essayer de manger bio, mais bon, des fois, on va quand même acheter des trucs pas bio et des trucs qui, si tu vois comment c'est produit, c'est la catastrophe totale.
C'est
pareil,
clair.
On s'achète quand même de temps en temps des fringues, même si on essaye d'acheter sur Vinted ou ce genre de trucs, ou en friperie. Mais bon, il y a bien des moments, tu vas acheter un truc chez Zara, bon, ben voilà, tu participes par un truc pas cool du tout. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il faut normaliser l'argent, entre guillemets, spéculatif, mais pour ça il faut comprendre, en fait, pour ça il faut c'est comprendre ça. Et comme tu dis, ça prend du temps, vraiment. Mais je sais que moi j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait commencé avec son mec à investir dans les cryptos et dans certaines actions, et j'étais là, mais quoi, mais attends, mais c'est la tu vois, genre, c'est vraiment la trahison totale,
tu
idéologique,
n'es plus mon amie.
Et elle m'a dit non, mais en fait c'est mon mec, il est allé à la banque, il a vraiment regardé les détails d'un contrat, d'un compte, je sais plus si c'était justement l'équivalent d'un livret A ou je sais pas quoi, et en fait il a vu que c'était horrible et il s'est dit non, mais attends, si c'est pour faire ça, autant que je le fasse moi-même, quoi. Et que je réfléchisse dans quoi je veux investir. Ouais. Et du coup, depuis, bah, il s'est formé à la bourse, machin, et il investit que dans des entreprises genre éco-responsables, tout ça, tout ça. C'est vrai que si, dans tous les cas, ton argent, il va aller quelque part, j'avoue, je préfère savoir où il va, quoi.
Là-dessus, je suis un peu old school. Je peux pas m'empêcher de me dire que la pierre, c'est mieux. Je pense que j'ai hérité de mes parents là-dessus. Mais il y a l'investissement immobilier. Et puis, il y a quelque chose qui est pas très connu. C'est l'investissement immobilier professionnel. Donc, il y a les SCI et il y a les SCIP. C'est-à-dire que tu peux acheter des parts d'actions dans des gros blocs de bureaux. Et en fait, c'est de l'immobilier. C'est juste des entreprises qui louent pour avoir leur bureau. Et là-dessus aussi, tu peux faire des plus-values qui soient pas forcément genre méga spéculatives. Mais bon.
Oui, bien sûr.
Encore une fois, j'en suis au balbutiement de mes recherches sur le sujet. Donc, on pourra avoir des débats sur les réseaux sociaux, ce sera passionnant.
Carrément. Et bah, du coup, dernière question, c'est comment on fait pour suivre tous ces conseils?
Alors, Plancache, la première chose à faire, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur LinkedIn, Plancache_media. Et puis, d'aller sur notre plateforme, plancache.fr, et de s'abonner, bien sûr, à la newsletter.
Merci Léa, merci beaucoup pour ces éclairages. On va tous s'abonner à la newsletter.
Hyper utile.
Alors, on va repasser au témoignage. Zina, tu vas nous présenter Alex.
Yes. Alors, Alex vit en Suisse et a subi une agression sexuelle alors que Yael était mineure. Inédit, mais Yael a décidé de poursuivre son agresseur en justice et la procédure a abouti. L'argent des dommages est resté sur un compte bloqué jusqu'à sa majorité et Yael a eu sa majorité il n'y a pas très longtemps. Je vous laisse l'écouter.
Je suis allée à la banque pour récupérer cet argent. Et ça m'a fait très très bizarre parce que en fait on parle pas de ça. Dans tous les témoignages que j'ai lus de MeToo, etc., on parle de viol, on parle d'agression, on parle de porter plainte, etc. Et c'est super. Mais on parle pas du après. Et on parle pas du qu'est-ce qui se passe en fait si d'un coup en fait la justice fonctionne, parce que heureusement ça arrive quand même de temps en temps. Très très rarement, mais ça arrive quand même de temps en temps. Je crois que c'est genre 1% des plaintes qui aboutissent à une condamnation. Faut encore que la personne porte plainte, est-ce qu'il n'est pas sûr encore. Et du coup, je me sens à la fois extrêmement privilégiée, même si en soi c'est juste la justice. Et d'un autre côté, je me sens super mal à l'aise en fait, parce que je suis profondément à gauche et anticapitaliste, et du coup cet argent en fait pour moi c'est une sorte d'argent qui est pourri. Du coup je sais pas trop comment vivre avec ça, et j'avoue que ça m'aurait beaucoup aidé de pouvoir lire des témoignages de meufs qui ont vécu la même chose et pouvaient parler de ça en fait. Du coup je trouve que c'est une thématique qui est encore très peu abordée dans l'espace public. Bon, en tout cas j'y ai pas eu accès personnellement. Je l'ai pas trouvé malgré mes recherches et tout. Malheureusement en fait à chaque fois qu'on parle de ça, et ben c'est pour en parler mal. C'est Jean-Michel à mytho, et puis la connasse elle a récupéré de la thune. Et en fait y a des fois où c'est légitime, malgré que je pense pas que c'est un moyen de lutter contre les violences adaptées. Actuellement c'est le seul qui existe, avec la prison, ce qui je pense pas non plus être la meilleure solution. Et c'est quand même les outils du système en fait. Et moi quand j'ai pris conscience de mon agression, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai suivi les outils du système, j'ai fait comme je pouvais. Et du coup, maintenant, je sais pas trop quoi faire avec cette thune. Je pense que finalement, j'y ai beaucoup réfléchi. Ça fait depuis que je sais que je vais recevoir que j'y réfléchis. Et maintenant, c'est un peu plus imminent, on va dire. Je suis partie pour léguer cet argent à des associations féministes et pour le climat qui sont près de chez moi. Parce que, pour une fois, j'ai de l'argent à donner, ce qui est très rare. Globalement, quand les gens font des appels au dos, moi, je peux pas vraiment donner, j'ai pas vraiment les moyens. Et du coup, je me suis dit pour une fois que l'argent il va dans l'autre sens en fait, faut le voir de manière positive et essayer d'en faire quelque chose de bien. Et voilà, j'appelle les personnes qui se sentent touchées par mon témoignage, parce que personnellement elles ont vécu la même chose comme ça, à en parler, que ce soit autour d'elles ou bien aussi sur les réseaux sociaux comme ça, parce qu'en fait ça fait partie de briser le tabou de parler de ça. Et de parler de ce que ça peut faire, etc. Tout ça, quoi. Je suis très heureuse d'avoir pu participer. Bonne suite de podcast et je me réjouis de vous écouter.
Merci beaucoup.
Alex. Merci. Bravo.
Hyper émouvant.
Quand j'ai écouté ce témoignage la première fois, moi j'ai eu l'estomac retourné en fait. De me dire mais qu'est-ce que tu fais de cet argent-là? Mais c'est vrai quoi.
On en parle peu
et surtout il y a ces images-là où on a parfois dans les médias de la personne qui reçoit des indemnités après une procédure comme ça, c'est super faire la fête sur le dos du pauvre mec agresseur
qui a détruit la vie.
Alors qu'en fait non, c'est absolument pas une fête en fait de recevoir cet argent-là. Alex le dit, et moi je pense aussi à ce que dit Adèle Haenel sur le sujet. Elle, ce qu'elle dit, alors c'est dans un livre qu'a sorti la journaliste de Mediapart Marine Turchi, Faute de preuves, qui est super intéressant sur le fonctionnement de la justice à propos des violences sexistes. Et en fait, ce qu'elle dit, elle dit mais moi, pour l'instant, j'ai déjà dépensé au moins 7000 euros de frais de justice. Donc après, il y a des si tu as gain de cause, tu es remboursé et tout ça. Ouais. Mais ça m'a déjà coûté 7000 euros plus sans compter ce que ça m'a fait aussi, c'est d'être victime en fait. Toute cette partie de ma vie que ça a détruit, toutes les relations que ça détruit, les relations avec mes parents qui sont pourries. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Je peux prétendre à 40 000 euros, mais c'est quoi 40 000 euros en fait? Oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est quoi par rapport à une vie détruite, avec le fait de devoir vivre avec ça toute ta vie? Donc cette question de cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vraiment un angle mort, comme Alex le dit, et c'est important d'en parler, ouais.
Moi, je suis d'accord que c'est triste qu'on doive mettre un prix là-dessus, et c'est parce qu'on est dans une société fondée sur l'argent. Encore une fois, là, si on fait ce podcast aujourd'hui, c'est par pur pragmatisme. Mais comme disait une copine à moi, je veux bien faire la révolution, mais c'est les autres, ils veulent pas. Il y a un moment, en fait, on peut pas le faire tout seul. Et effectivement, comme IL dit dans son témoignage, il y a un moment où on est obligé d'utiliser les outils du système. Et je pense qu'il faut prendre en compte, effectivement, ce que ça a pu te coûter en temps. Déjà en partant du concret, parce qu'il y a la partie qui est impossible à quantifier, clairement. Mais même ne serait-ce qu'en temps de procédure, tout ça, en heure de psy, c'est un vrai préjudice. Et c'est pour ça qu'il y a des vrais dommages et intérêts quand ça aboutit, effectivement, c'est tellement rare.
Et mais du coup, la question de ce qu'on fait de cet argent. Ouais. Enfin, merci beaucoup, Alex, pour cette question, parce que c'est vrai qu'elle est hyper compliquée. On parle souvent de l'échec des procédures de justice. Et puis, bah, nous, dans les combats féministes, on essaye de dézinguer au maximum le mythe de la fausse plainte, parce que faut regarder, hein, notamment en France, ça aboutit rarement. Et quand ça aboutit, les victimes, quand elles sont indemnisées, c'est par un fonds de garantie. Donc, elles sont indemnisées au rabais. Donc, super, hein, le mythe de la fausse plainte pour se faire du fric. Merci.
Ouais.
Il y a Rose Lamy qui a écrit un livre, qui est un livre vraiment génial, que je vous conseille, qui s'appelle Déconstruire le discours sexiste dans les médias, où elle fournit un travail incroyable sur cette question. Elle explique, elle donne des chiffres qui sont vraiment très chouettes, on le mettra en référence. Et du coup, la question qu'Alex pose est une vraie question d'ordre moral, parce que bon, alors déjà, je voudrais donner suite à sa requête. On va poster, on va faire un post sur le sujet dès le lendemain de la diffusion de cet épisode. Surtout, n'hésitez pas, s'il y a des personnes concernées, à nous dire ce que vous en pensez, à venir débattre, même venir nous voir en DM, parce que je pense que c'est un sujet très important que tu soulèves là, Alex, et qu'on va pouvoir débattre sur la question. On aimerait vraiment beaucoup avoir vos retours, donc n'hésitez pas.
Alors, maintenant, on va passer au témoignage de Marie-Hélène Marga.
Oui, alors Marie-Hélène, en fait, c'est mon ancienne prof de SES quand j'étais au lycée.
Génial.
Et aujourd'hui, elle est engagée en politique au conseil municipal du village où j'ai grandi, en Bretagne.
Trop bien.
Alors, elle est adjointe aux finances. Je pense que Zina, vraiment, ça va te plaire, son histoire. Parce que ça n'a pas été du tout facile pour elle de faire sa place. Alors, pendant la campagne, le maire était venu la chercher en lui disant « J'ai une proposition que tu ne pourras pas refuser. Je voudrais que tu sois première adjointe et adjointe aux finances. » Donc voilà, déjà, elle était en mode « Waouh, trop bien, ok, bon allez, j'y vais. » Sauf que après l'élection, bizarrement, il y a un mec qui était genre en cinquième position sur la liste qui a dit « Ah ouais, mais non, mais moi aussi, je veux être première adjointe. » Donc voilà, donc Marie-Hélène, le poste de première adjointe, bouf, sous le nez.
Mais non.
Voilà, voilà. Mais elle est quand même restée adjointe aux finances. Sauf qu'en fait, elle est arrivée après la mandature d'un adjoint aux finances qui était ancien commissaire aux comptes, qui avait fait toute sa carrière à Paris, donc qui impressionnait vraiment tout le monde.
Les paillettes, quoi.
Voilà, exactement. Et ce que Marie-Hélène m'a dit, c'est assez drôle. Elle m'a dit qu'elle a enseigné voilà, les SES au lycée pendant toute sa carrière. Et notamment, ça fait partie du programme, la discrimination de genre. Elle dit, mais je l'avais jamais vécu au travail avant de faire de la politique.
C'est une illustration en direct.
Donc voilà, donc, il se trouve qu'elle est adjointe aux finances. Donc concrètement, son rôle, c'est de prévoir et de valider les dépenses de la commune. Donc évidemment, elle ne fait pas ça toute seule, parce qu'elle a avec elle une comptable qui travaille avec elle. Et elle est aussi, évidemment, sous le regard de tous les citoyens qui, normalement, peuvent avoir accès au budget de leur commune, comme c'est le cas partout en France. Et c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Je vous laisse l'écouter.
Le premier conseil municipal de budget, donc vraiment le moment important de l'année pour l'adjoint aux finances. Donc là, j'explique au conseil, enfin, il n'y a rien à cacher, il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Et donc, j'explique le fonctionnement, pardon, l'investissement, etc. Et puis, donc, les chiffres, je monte mon petit tableau à l'écran, sur les feuilles, etc. Et puis, à la fin, il y a une élue de l'opposition, c'est important, qui dit, c'est la première fois, alors que ça fait donc qu'elle était déjà dans l'opposition lors de notre première mandature. C'est la première fois que je comprends vraiment un budget. Donc, merci Marie-Hélène, ça a été très clair. Je n'ai pas fait une fierté extraordinaire, mais au fond de moi, je me suis dit, ah ouais, quand même. Si l'opposition le dit, c'est que ça ne doit pas être si mal. Et que finalement, il y a toujours, mais bon, ça c'est un peu partout pareil. Quand c'est très compliqué, que les gens n'y comprennent rien, ils ont l'impression que la personne est très douée, qu'elle explique des choses, comme des mortels n'est pas capable de les comprendre, etc. Et là, au contraire, moi, je suis persuadée que si les gens comprennent, quand ça paraît simple, c'est fabuleux, c'est gagné.
Merci beaucoup, Marie-Hélène.
Trop forte.
Ouais, c'est ça, mais moi, ça rejoint un peu ce que disait Léa, en fait, tout à l'heure, de dire qu'en fait, il faut aussi expliquer les choses et mettre la finance, l'argent, tout ce qu'il y a autour, à portée de tout le monde, en fait. Et en fait, bravo, enfin, d'avoir pris ce temps-là de
faire
bon, même si évidemment, c'était ton métier à la base, c'était prof, donc c'est un peu quand même aussi ton métier d'expliquer, mais en tout cas, d'avoir pris ce temps-là pour que tout le monde comprenne, parce que moi, je pense que c'est très important. Là, on est sur un sujet quand même, un gros, gros sujet, parce que finalement, les finances dans une commune ou dans une région ou dans une grande ville comme Marseille, c'est quand même ce qui permet de réaliser les politiques publiques. Donc, c'est très important qu'on s'en empare, et en tant que féministe aussi, parce que il y a des choix qui sont faits aussi dans ces conseils municipaux qui pourraient être faits différemment en fonction des élus qui sont là.
C'est clair, il y a toujours ce cliché quand il y a un conseil municipal qui se compose de mettre les femmes à une délégation sur les femmes ou à la limite sur l'écologie.
Pourquoi vous avez d'autres sujets qui vous intéressent? Je comprends pas.
Ce que me disait Marie-Hélène, c'est qu'elle est également élue donc à la communauté de communes, donc les groupements de communes qui permettent de gérer justement des plus gros budgets. Et donc elle est à la commission finances. Il y a aussi des commissions sur tous les thèmes. Et dans la commission finances, il y a que 3 femmes sur 14 postes. Elle dit alors qu'une fois, elle allait remplacer une de ses collègues qui était à la petite enfance. Et il n'y avait pas d'hommes, en fait.
Mmh. Ouais, d'accord.
En
ouais.
fait, les rôles sont extrêmement genrés.
Tellement cliché.
Je pense que ça te parle beaucoup, Zina.
Oui, complètement. C'est ce que j'ai pu observer aussi.
On n'est pas surpris, malheureusement.
Voilà. Et donc, le conseil de Marie-Hélène pour celles qui voudraient se lancer en politique et pourquoi pas devenir adjointe aux finances de leur commune, c'est vraiment de ne pas hésiter. En fait, ça peut faire peur, mais en fait, il y a des formations qui existent pour les élus. T'es pas lancée comme ça toute seule dans la nature. T'es accompagnée. Il y a aussi les salariés des mairies qui sont là aussi pour épauler. Donc, on entend beaucoup ça dans les petites communes. Les maires ou les futurs maires viennent chercher les femmes parce qu'ils ont besoin de femmes sur leur liste parce que c'est la loi parité. Depuis 2000, il faut une liste, un homme, une femme. On a encore du mal à laisser aux femmes les plus grosses délégations, notamment les finances. Donc, il faut aussi, oser y aller et se dire que de toute façon, on sera pas seul, on sera épaulé.
Voilà. Go pour le grand remplacement de
Exactement.
toutes les mairies. Merci beaucoup, Marga. Alors là, on va passer au dernier témoignage, le témoignage d'Amandine. C'est un pseudo. D'Amandine est travailleuse du sexe en Belgique. Là-bas, la prostitution est légale. Et elle explique en fait comment elle en est arrivée à prendre la décision de se lancer dans le travail du sexe.
En fait, je me rends compte qu'il y a plein de mécanismes et de croyances que j'ai dû déconstruire et que je suis encore en train de déconstruire par rapport à l'argent. Et peut-être que l'exemple le plus flagrant concerne tout simplement comment j'ai commencé mon métier, qui est de travailleuse du sexe. En fait, avant de commencer, je faisais des rencontres sexuelles, sans engagement, sans aspect affectif. Et je vivais ça très bien. Simplement, je me rendais compte que dans plein de situations, j'étais quand même beaucoup plus au service de mon partenaire qu'autre chose. Alors, soit au service de son plaisir, soit en termes de travail émotionnel, si c'est quelqu'un, par exemple, qui était très complexé, qui avait besoin d'être énormément rassuré, où il y avait vraiment une dimension de prendre soin. Et je me disais, mais ça ne me pose pas de souci de le faire. Simplement, on n'est pas dans un truc réciproque et équivalent. On est dans un truc où c'est moi qui rends service. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien être rémunérée, en fait. Et vraiment, il y a eu vraiment cette période de réflexion en me disant, mais j'ai aucun souci à le faire. C'est juste qu'alors je veux être rémunérée. Si je suis en train de faire ce travail de disponibilité, d'organisation, etc., etc., je voyais vraiment qu'il y avait plein de composantes qui montraient vraiment que j'étais en fait en train de travailler et de faire un travail vraiment que j'apprécie, mais que j'étais en train de le faire gratuitement. Et pour moi, ça a été un pas important de précisément me dire, mais en fait, c'est un travail, je mets une annonce pour réellement proposer des services sexuels et pour me faire rémunérer pour ça. Pour moi, ça a été une grosse révolution. Et c'est peut-être l'exemple le plus flagrant que j'ai à l'esprit par rapport à toute cette déconstruction du travail gratuit, en fait. Parce que je pense vraiment qu'en tant que femme, on est souvent appelée, conditionnée à accepter de faire toutes sortes de tâches gratuitement. Et je pense que c'est pas mal de se rendre compte qu'en fait, non, on a le droit d'être rémunéré pour ça.
Merci beaucoup, Damandine, pour ce témoignage. On va pas refaire le débat sur la prostitution aujourd'hui. Ici, nous, on soutient les luttes des travailleuses du sexe et on ne parle pas à leur place. Juste, ça me rappelle une anecdote, ce qu'elle raconte. C'est qu'il y a quelques mois, une amie m'a dit « Non mais moi, en fait, je me rends compte que quand je couche avec un mec, c'est toute une performance. Tu vois, je mets la crème, la lingerie, des bougies, la totale. Chez moi, c'est hyper propre et tout. Et les mecs, ils arrivent nature peinture, caleçon
sale, il croit que c'est normal, en fait.
Ah ouais, non.
Et je m'étais dit, ah, c'est vrai, elle a raison, c'est une performance. On a été conditionnés à faire ça. Et elle avait fini par me dire, et je fais ça gratos.
Et ouais. Il y a un tag que j'ai vu récemment dans les rues de Marseille qui disait, un mari, c'est le même client pour toute la vie.
Meilleur tag.
Ah ouais, meilleur, c'est clair.
Ben oui, moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Amandine à l'instant. Bon, déjà, je la connais, c'est une amie, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour son parcours et son cheminement sur ces questions-là, parce qu'effectivement, je comprends ce qu'elle veut dire quand elle parle du travail gratuit. On a tout en nous un syndrome de l'infirmière. Donc, aujourd'hui, c'est l'épisode où je sors tous les syndromes, hein, mais... mais vraiment, on a ce truc du care, du je prends soin de l'autre, qui est assez facile à activer, parce qu'en fait, on a été conditionné comme ça. Et elle, en plus, elle s'intéresse beaucoup aux thérapies, elle s'est formée à la CNV, elle s'est formée à pas mal d'outils. Et finalement, dans son rapport à ses clients, il y a quelque chose d'ordre thérapeutique, en tout cas de la prise de soins. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve aussi depuis que je me suis reconvertie moi-même à la thérapie, beaucoup chez mes collègues, ce truc de... et même chez les militantes, hein, d'ailleurs. Si on regarde plus largement, ce truc de travailler gratuitement, de s'investir gratuitement, ce truc du don de soi pour se revaloriser, c'est très très présent. Et c'est important de le déconstruire parce qu'on ne mérite pas moins que les autres, en fait.
Oui, et c'est ce que disait, alors dans le podcast de Titu Lecoq, justement, Rend l'argent. J'ai mangé le nom de la sociologue qui en parle, mais en tout cas, vous l'écouterez. Il y a toute une partie là-dessus, en fait, de dire que la féminité, en fait, c'est construite sur le don.
Ouais.
Et qu'en fait, ne pas donner quand on a une femme, eh ben, en fait, c'est pas bien. Tu respectes pas ta condition. Ah,
on est
de femme,
des ONG,
en fait.
Voilà.
c'est ça. Mais exactement. Même l'exemple de la cuisine l'illustre parfaitement. Quand une femme cuisine, c'est normal. Quand un homme cuisine, c'est oulala.
Un exploit.
Ouais. Voilà.
Et là-dessus, il y a un autre livre encore, une autre référence qu'on peut faire, c'est le livre de Lucille Quillet, Le prix à payer, qui parle justement de couple hétérosexuel et de ce que ça coûte en fait en tant que femme d'être en couple hétérosexuel, notamment sur ces questions-là du soin et comment ça nous empêche aussi de mener des carrières, d'épargner de l'argent, de passer du temps pour soi. Donc je trouve que ça rejoint cette question-là aussi, ouais.
Tout à fait. Bah du coup, on va passer rapidement au courrier des auditrices, Marga.
Oui, oui, oui. Alors, sur Insta, on vous a demandé si vous aviez des questions à nous poser pour cet épisode, puisque en à peu près une heure, on est devenus des expertes en finance.
Si seulement.
Mais voilà, on va essayer de réfléchir ensemble, en tout cas. Donc, il y a Anna qui nous a demandé, que pensez-vous de partager tous ses sous en couple? Alors, moi, je dis non.
Surtout pas.
Tout est dans le tous ses sous, en fait.
Ouais.
Partager une partie. Alors, moi, c'est le choix que j'ai fait avec mon compagnon depuis qu'on a un enfant, c'est d'avoir un compte commun pour les dépenses courantes. Mais ça implique de savoir, en fait, de combien tu as besoin pour tes dépenses courantes et aussi d'être transparent sur ce que tu gagnes, en fait. Parce que il y a aussi un aspect dont on n'a pas forcément parlé, mais quand on est en couple avec des revenus. Avec des gros écarts de revenus. Si on fait du 50-50, par exemple, pour la personne qui gagne moins d'argent, c'est un gros effort, en fait, de s'aligner sur la personne
Tout
qui gagne
fait.
Beaucoup d'argent.
Mmh.
Et pour la personne qui en gagne plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va baisser son niveau de vie. Ben non, en fait. Enfin, elle va pas baisser son niveau de vie juste parce que toi, tu gagnes moins. En fait, le risque, c'est que toi, tu dois faire un effort financier énorme pour pouvoir suivre ce train de vie et du coup avoir très peu d'argent à toi. Donc, à la fois, voilà, questionner ce 50-50, c'est en fonction de la situation, hein. Il n'y a pas de règle générale. Voilà, et puis garder toujours que chacun, chacune se garde une petite part d'argent à soi pour ses choses, son petit jardin secret. Enfin, je pense que c'est très, très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Ah oui, oui, moi, je suis grave d'accord. Et je suis d'accord que c'est un peu du cas par cas. C'est-à-dire que si on est dans la configuration, entre guillemets, systémique, où le mec gagne plus d'argent que la femme, ça me paraît logique qu'il paye plus de choses dans le sens où, on donne l'exemple souvent des restos et compagnie, c'est un peu futile, mais bon, je veux dire, ça coûte cher d'être une femme, en fait. Encore une fois, hein, après, bien sûr que c'est pas toutes les femmes, mais si on répond aux injonctions, ne serait-ce que épilation, maquillage, coiffure, machin,
vêtements,
les budgets, on en avait parlé une fois oui. Dans un épisode, des budgets mensuels. liées
dans notre
à
l'épisode sur la beauté, ouais.
Pour tout ça, mais c'est vraiment des vraies sommes, hein. C'est pas une blague, quoi. Donc je pense que voilà, faut faire du cas par cas en fonction des revenus de chacun, etc. Moi, on m'avait raconté un cas où un mec, en fait, pendant des années avec sa femme et qu'il avait des enfants, il lui avait menti et genre il gagnait 6 000 euros par mois. Elle le savait pas et il lui demandait de faire 50-50 alors qu'elle gagnait 2 000 et ils avaient des enfants.
Ah ouais.
Donc, sachant qu'on sait que souvent dans un couple avec enfant, alors là aussi, je pense qu'il faut différencier avec enfant, sans enfant, c'est pas les mêmes enjeux, clairement. Souvent, les femmes font beaucoup plus de dépenses pour les enfants. Acheter les vêtements des enfants, acheter les goûters des enfants en sortant de l'école, enfin, tout en fait. Enfin, parce que, en général, elles anticipent beaucoup plus les besoins des enfants, elles y pensent beaucoup plus. Enfin,
elles en ont plus la charge, surtout, en fait.
Totalement.
Voilà, c'est souvent elles qui vont les amener les chercher à l'école.
Et en plus de la charge de temps, la charge mentale, la charge de temps, etc., bah, ça devient une charge financière.
Évidemment.
Donc, encore une fois, je pense que c'est du cas par cas, mais le truc du 50-50 à tout prix, non, moi, je suis pas pour.
Bah, je suis pas pour non plus, mais je suis pas sûre d'être la bonne personne pour répondre à cette question. Parce que moi, je suis pour la communauté de séparation de biens, de façon radicale.
Enfin,
bah, j'ai, voilà, je suis pour que chacun ait son appart, ouais. Chacun sa vie. Je vois l'amour heureux, mais séparé.
Oui, non, mais en plus, parce pourquoi que là, on dit couple comme si c'était une évidence que c'est le couple hétéro-patriarcal classique, machin, alors qu'en fait, il y a plein de façons d'être en couple.
Et
donc,
plein de façons,
vraiment, faites comme vous pensez que c'est juste.
Exactement.
Mais en tout cas, discutez-en, en fait.
Voilà,
et si
ça,
à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Mais comment ça ? Non, c'est l'amour. On parle pas de ces choses-là. Je te
on
donne, machin, on compte pas. » En fait, non, il y a un problème.
Oui, et puis il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent avec rien après un divorce parce que le mec, il a acheté l'appart. Ça, elle en parle dans
Grand
L'Argent,
pesque.
Il me semble. C'est le mec qui a acheté l'appart, ce genre de truc.
Toi, t'as acheté les couches. Oui. D'ailleurs, il y a Amélie qui nous signale « Même en couple, faites bien gaffe à ses finances en épargne, parole de diversé qui s'est faite avoir. »
Voilà.
C'est ça. Il y a un podcast aussi que j'avais écouté qui parle de ça. C'est le podcast Vivons heureux avant la fin du monde.
Ah oui,
qui a fait des épisodes sur la séparation. Et il y a tout un
comment
épisode
bien
qui traite
vivre sa séparation, je crois.
Voilà.
Il y a 3 épisodes.
Voilà. Il y avait un notamment sur l'argent.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est intéressant. Et ça, c'est des choses qui se préparent avant le divorce, en fait.
Complètement.
Ou avant la séparation.
Si vous vous mariez, faites un contrat de mariage, surtout.
Alors, on a Anna qui demande comment mettre de côté quand on a pile poil assez pour le mois. Alors, c'est difficile de répondre de cette question parce que ça dépend de qu'est-ce que tu appelles pile poil. C'est vrai qu'en vivant avec 900 000 euros par mois, effectivement, c'est très, très compliqué quand on doit payer un logement, la nourriture, un abonnement Internet, enfin, des transports, c'est impossible, en fait. Moi, je dirais, c'est de pas avoir des gros objectifs, en fait.
C'est
pas
ça.
Se dire, je vais mettre 100 euros par mois. Vaut mieux, je pense, être régulière et se dire, je vais essayer de mettre 10 euros tous les mois.
Dès que je peux
ou tous les 3 mois, mais se mettre un objectif comme ça facilement atteignable et le respecter et essayer de pas toucher à cet argent, je pense que ça peut être déjà un premier pas pour se constituer une petite épargne. Et après voilà, ça je pense que ça dépend de chacun chacune et de ses habitudes. Après on peut aussi partir à la chasse aux dépenses, par exemple, chercher regarde sur relevé de compte et voir, tiens, j'ai un abonnement Canal Plus que j'ai jamais utiliser.
Oui,
est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et ça, en fait, tout de suite, ça fait des petites sommes, hein, peut-être de 9 euros, 10 euros par mois, mais tout ça mis bout à bout, ça peut faire voilà une petite épargne qu'on peut se constituer mois après mois. Voilà, se dire que si on arrive à mettre 10 euros par mois, à la fin de l'année, ça fait 120 euros. Quand on a des tout petits salaires, c'est vraiment pas rien.
Ouais, ce petit check-up des comptes qui parfois paraît anodin, mais permet de dégager un petit peu de sous. Par exemple, le fournisseur de gaz ou d'électricité, par exemple, l'opérateur téléphonique. Par exemple, effectivement, les abonnements dont on se doute pas qui sont renouvelés automatiquement. Enfin, de temps en temps.
Mais moi, j'ai gardé un abonnement à Body Minute pendant genre 3 ans. Alors que j'allais jamais me faire épiler, quoi.
Ça, je pense.
Mais oui,
le pire, c'est Body Minute, ils ont trop compris, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors, il y a quelqu'un qui nous demande aussi quelle est la meilleure façon d'aborder le sujet avec sa hiérarchie. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, déjà, c'est d'oser demander. Oser demander un rendez-vous, je dirais. Et ensuite, de préparer l'entretien, évidemment, de pas arriver en mode « je veux être payé plus », se poser, faire le point sur son salaire, sur quelles tâches on fait réellement, parce que parfois, le N+1, comme on dit, ou en tout cas le responsable, ne sait pas forcément les tâches qu'on fait. Donc, voilà, répertorier toutes les tâches qu'on fait et pour derrière... dire, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça, je pense que je dois, je mérite tant. Et pas hésiter à demander peut-être un peu plus que ce qu'on... Comme on a tendance, en tant que femme, souvent à se dévaloriser, demander un peu plus que ce qu'on veut pour peut-être derrière...
C'est une négo,
voilà, c'est une négo. Toujours pour derrière avoir peut-être ce qu'on veut, au final, ou un petit peu moins que ce qu'on veut.
Et n'hésitez pas à vous donner du courage avec les contenus dont on va vous donner les références, parce que ça, c'est vrai que ça aide de réfléchir un peu sur ces questions et d'avoir des chiffres et de retourner un peu empouvoiré chez son employeur ou son employeuse.
Carrément. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode.
Oh, Sniff. Non.
Merci beaucoup à toutes les Warriors, Ariette, Sarah, Clémence, Manon, Alex, Marie-Hélène et Damandine pour leurs témoignages. Merci à Léa Lejeune pour ses éclairages sur Plan Cash. Pour faire grandir la communauté des Warriors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux @yespodcastyes avec 3S. Vous pouvez, on vient d'arriver sur TikTok d'ailleurs, hein, si vous êtes sur TikTok.
Wouhou, coucou.
Vous pouvez aussi faire tomber sur nous une pluie d'étoiles sur votre appli de podcast préférée et nous laisser plein de commentaires. Vous pouvez aussi nous laisser maintenant des vocaux, des messages vocaux sur WhatsApp au 07 45 65 56 75 ou par mail warrior au pluriel @yespodcast.fr. Tout ça, c'est indiqué sur notre compte Instagram si vous voulez vérifier. En attendant, ne lâche rien, on est avec toi. Tu as avec toi toute une communauté qui croit en toi, qui lutte pour toi. On est ensemble et on va tout défoncer. Nous sommes les Warriors.
Yeah. Yeah.